La mère de Garp, Jenny Fields, fut arrêtée en 1942 à Boston pour avoir blessé un homme dans un cinéma. Cela se passait peu de temps après le bombardement de Pearl Harbor par les Japonais et les gens manifestaient une grande tolérance envers les militaires parce que, brusquement, tout le monde était militaire. Mais Jenny Fields, pour sa part, restait inébranlable dans l'intolérance que lui inspirait la conduite des hommes en général et des militaires en particulier. Dans le cinéma, elle avait dû changer 3 fois de place, mais le soldat s'étant chaque fois rapproché un peu plus, elle avait fini par se retrouver le dos contre le mur moisi avec entre elle et l'écran un stupide pilier qui lui bouchait pratiquement la vue. Aussi avait-elle pris la décision de ne plus bouger. Le soldat, quant à lui, se déplaça une nouvelle fois et vint s'asseoir près d'elle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, cette scène a quelque chose à voir avec aujourd'hui, et peut-être même qu'elle aurait pu être écrite aujourd'hui. C'est la première page du Monde selon Garp de John Irving en 1978.
Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est écrivain. Il fête cette année les 40 ans d'un roman désormais culte, Le Monde selon Garp, dont je viens de lire une scène éloquente, la toute première, traduite de l'américain par Maurice Rambeau. Bonjour, John Irving.
Hello again.
Merci Bonjour beaucoup à nouveau. D'être là. Je vous pose la question en toute naïveté. En quoi, à votre avis, notre époque diffère-t-elle de celle où vous écriviez il y a 40 ans, Le Monde selon Garp?
J'aurais bien aimé que le monde soit différent. J'aurais bien aimé qu'il y ait plus de différence. Lorsque j'écrivais ce roman, j'imaginais que ce niveau de haine sexuelle serait vraiment vieilli même avant la fin du manuscrit, certainement avant que le livre soit publié. Je pensais que l'intolérance sexuelle était quelque chose de l'ancien temps, trop idiot pour durer. J'ai jamais été très bon dans mes prédictions politiques. Et ben voilà, je me suis trompé. J'imaginais que on aurait, le temps passant, on serait devenu plus intolérant de l'intolérance sexuelle. Mais bon, les mauvais traitements des minorités sexuelles, la haine des différences sexuelles, je pensais que à l'époque où j'écrivais un roman de manifestation contre cela, et que, bon, ça serait terminé quand ça serait publié. Mais je pense que le livre a d'autres qualités, les personnages, les caractères, qui ne sont pas affectés par le passage du temps, ces 40 ans, et qui font que le livre est, qui valent la peine, qui vaut la peine d'être lu en dépit de tout le temps qui a passé. Et bon, c'est pas à mettre au crédit du livre, mais c'est à mettre au débit de la honte du monde dans lequel on est aujourd'hui. Nous tous encore, nous sommes une société moins tolérante sur le plan sexuel que nous devrions l'être.
Alors c'est intéressant puisque l'autobiographie de la mère de Garp s'appelle Sexuellement suspecte, John Irving, dans votre roman. Cette mère qui devient une sorte d'icône du féminisme, qu'est-ce que ça veut dire être sexuellement suspecte pour vous?
Well, Jenny has a...
Jenny a un instinct. Elle veut avoir un enfant. Être une bonne mère. À mon avis, c'est une très très bonne mère. Mais elle ne veut rien avoir à faire avec un homme dans sa vie ou un attachement constant avec un homme dans la vie. Non, elle veut simplement un enfant.
Et if her means of making herself pregnant is
si son moyen de tomber enceinte est, disons, quelque chose d'un peu bizarre, de questionnable, de critiquable, le principe de son, féminisme est toujours là.
She's a very attentive,
c'est une très très bonne mère. Garp dirait, sa mère est trop attentive à lui, il pourrait le dire.
Mais
elle devient une icône, un symbole du mouvement féministe. Pas tellement à propos, elle n'a pas voulu, mais en tant que résultat
de
son indépendance extrêmement active, son indépendance des hommes.
Et
c'est pour ça qu'elle est en but à la haine de ces hommes qui haïssent les femmes ou qui n'aiment pas que les femmes pensent qu'elles puissent être aussi indépendantes que les hommes.
Je pense à un autre personnage central du monde selon Garp, tout de suite, John Irving. C'est évidemment celui de Roberta, qui est transsexuelle, personnage central du livre, et pourtant quelque peu mis au second plan de l'adaptation qui avait été faite en 1982 de votre roman avec Robin Williams dans le rôle de Garp. À l'époque, je me souviens, ça vous avait heurté.
Well, I was always friendly with George R. Hill, the director.
J'ai toujours été ami avec le réalisateur George Hill.
To the degree that if
au point que
I hadn't been George's friend, I might have accepted.
J'étais pas l'ami.
Writing that screenplay,
au point d'écrire le scénario du film.
But I knew George pretty well,
mais je le connaissais bien, cet homme. Je l'aimais bien.
And I knew we didn't see eye to eye on
je savais qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur le film qu'il souhaitait faire. Et je savais qu'il le ferait à sa façon.
For good or bad, he was a military
en bien
kind of guy.
Ou en mal, il était plutôt du genre fanamili. Et je respectais ça.
Et
je savais que ce serait une rude bataille et que je la perdrais. J'ai pensé que Roberta, la femme transgenre, était de beaucoup d'aspects le personnage le plus normal du film. Et qu'elle est libre de toute haine ou de cette séparation que les autres personnages ressentaient. Et j'ai senti dans le film, elle devait être la voix qui fait l'oraison funèbre et la voix qui fait l'oraison funèbre pour Garp à la fin. Mais George n'était pas d'accord avec ça. Lui, il pensait que les qualités de Roberta qui l'attiraient le plus, c'était l'aspect comédie ou qu'elle était un ancien joueur de football. Voilà. Quand je dis que c'est une occasion ratée, je le dis parce que John Lithgow, qui jouait Roberta dans le film, avait plus que les capacités nécessaires pour interpréter la Roberta que j'imaginais. Il en était parfaitement capable. En fait, même marginalisé tel qu'il l'a été dans le scénario du film, j'ai pensé qu'il méritait cette sélection à l'Oscar. Pour son rôle qui s'était cantonné à la comédie.
We'll see if my
on va voir
version, my teleplay
si ma version,
according to Garp,
ma version télévisée, une mini-série du monde selon Garp, on va voir si cette mini-série va être tournée ou pas. Mais je pense que j'ai donné à Roberta, dans ce récit, la place qu'elle mérite.
Cet intérêt, pour tous ceux qui sont souvent relégués aux marges des fictions, John Irving, des discours, de la norme, d'où ça vous vient, ça ?
My own mother was
Eh bien, ma propre mère
working first as a nurse's
a travaillé
aide,
d'abord comme assistante infirmière, puis comme assistante sociale pour le conseil familial du New Hampshire.
In those days, in rural
et
New Hampshire,
dans ces, à cette époque-là, le conseil aux familles, ça voulait dire s'occuper des jeunes femmes, des jeunes filles qui ont été maltraitées par des membres de leur famille, ou même attaquées par des membres de leur famille, principalement.
Et
en fait, la première des minorités sexuelles, m'a dit ma mère, c'était les femmes. Et maintenues à propos en tant que minorité sexuelle parce qu'elle n'avait pas le choix de choisir d'avorter si elle le souhaitait. C'était bien avant le mouvement pour la liberté de l'abortion, de l'avortement, pardon. Et ma première vision des femmes comme minorité sexuelle, de la façon dont les femmes étaient traitées et maltraitées, ça m'a donné une sorte de radar pour reconnaître ce monde gay et lesbien. Les mauvais traitements étaient beaucoup plus profonds et beaucoup plus établis. Et les transgenres, hommes ou femmes, étaient la minorité visible d'une autre minorité dans beaucoup de cas. Et donc, c'est de là que vient mon intérêt pour Roberta et dans Miss Frost aussi, comme une minorité sexuelle sous-représentée.
Celle qui prend en compte toutes les minorités sexuelles dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, John, c'est la culture, évidemment. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 20 septembre ?
Mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai.
Amérique, Amérique, on veut la voir, on l'aura. C'est aujourd'hui que s'ouvre le prestigieux Festival América de Vincennes. Rendez-vous incontournable des lettres d'Amérique. Ce festival met cette année à l'honneur la littérature canadienne avec une trentaine d'auteurs invités. Côté États-Unis, on pourra compter sur Jeffrey Eugenides, Richard Powers et bien sûr vous, John Irving, pour les 40 ans du Monde selon Garp.
Hey, rappelle-toi à l'époque, pas un rond dans les poches. On attendait pas Halloween, par le Tokyo Port. Pas toujours été ça, je voulais ressembler au grand chez moi.
C'est la Champions League, le petit prince de l'afro-trap MHD a sorti hier, mercredi 19, son deuxième album intitulé 19, comprenant 19 morceaux et porté par le single 19 et son clip Léché. Le jeune rappeur a voulu rendre hommage à son quartier d'origine, le 19e arrondissement de Paris. Et pour l'album plus intimiste, plus mélodieux aussi, il a notamment collaboré avec Salif Keita ou Aurel San. Pa-pa-pa-pa.
The arts ignite the mind. They give you the possibility to dream and to hope. That is what kids need today.
Mitchell du Désir, tout premier danseur étoile noir américain, Arthur Mitchell est mort hier, il avait 84 ans. Né et élevé à Harlem, l'étoile avait intégré le New York City Ballet en 1955, affrontant commentaires, injures racistes. Acteur de la lutte pour les droits civiques, Arthur Mitchell avait créé en 1969 le Dance Theater of Harlem, qui 50 ans plus tard est toujours une institution new-yorkaise. Rest in power. La maîtresse te stresse, et alors tu t'ennuies, et alors tu n'aimes pas ton prénom, et alors les éditions Pocket Jeunesse lancent aujourd'hui la jolie collection Et alors, des petits romans qui ne racontent pas de salade aux enfants mais qui les invitent à se débrouiller tout seuls face aux petits tracas du quotidien. Les quatre premiers tomes sont dispo en librairie dès aujourd'hui et sont signés Elisabeth Bramy et Christophe Bess. Chouette. Et John Irving, invité exceptionnel de Boomerang ce matin pour les 40 ans du Monde selon Garp, mais aussi pour le Festival américain, on le disait, à Vincennes jusqu'à dimanche, l'enthousiasme des Français pour la littérature américaine, parce que c'est plus qu'un intérêt, c'est un enthousiasme. Qu'est-ce que ça vous inspire, à vous ?
I'm surprised.
Je suis surpris.
Largely because Americans don't seem terribly interested
in Américains ne semblent pas y être intéressés à cette littérature eux-mêmes.
Donc,
vraiment, ça me surprend que qui que ce soit s'en occupe ici. Aux États-Unis, il me semble que l'intérêt dans notre propre littérature est exclusivement accordé à Mark Twain, Hemingway,
F. Scott Fitzgerald,
Faulkner, Scott Fitzgerald, ce qui me semble être véritablement un point de vue extrêmement étroit. J'ai toujours été plus intéressé par les écrivains américains avant ces auteurs-là et après eux. Moi, j'étais un petit peu dans leur période de l'Amérique, cette littérature que j'ai trouvée extrêmement provinciale. J'ai toujours été plus intéressé par Melville, Hawthorne, certains de ces écrivains qui sont beaucoup plus proches de mes contemporains à moi. Donc je suis très heureux de voir que un autre pays que le mien est intéressé dans l'Amérique du Nord en général. J'ai vécu un certain temps, en fait ça fait 30 ans que je vis au Canada, 4 ou 5 mois par an, mais il n'y a que très récemment, depuis 2015, je suis devenu, en termes d'immigration, un résident permanent du Canada. C'est vrai pour les 3 dernières années. Mais ma proximité avec le Canada, géographiquement, parce que j'ai grandi dans le nord des États-Unis, et là, au cours des 30 dernières années, y vivant, ça me donne un autre pays. J'aime le penser ainsi, et d'avoir donc une vision extérieure sur ma propre Amérique.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aussi des romanciers français que vous citez souvent, et notamment un certain Gustave Flaubert. En tant qu'écrivain, quels enseignements avez-vous tiré de la lecture de Flaubert, John Irving?
Editor, I was very fortunate to have a man at
mon premier éditeur,
Random House in the United States, named Joe Fox.
House, qui s'appelait John Fox.
He was Philip Roth's editor. He was Truman Capote's editor.
Philip Roth, Truman Capote.
He was Mavis Galante's editor.
Il était aussi l'éditeur de Mavis Galante.
Old school.
C'était quelqu'un de très strict à l'ancienne. Il avait une vie extrêmement intéressante avant, après et au bord du mariage. C'était l'homme le plus âgé que je connaissais qui ait eu beaucoup de relations avec de très nombreuses femmes. Et quand il a découvert que j'étais toujours un jeune homme, j'écrivais mon premier roman, quand il avait découvert que je n'avais pas lu Madame Bovary, il m'a dit, tu sais, John, j'ai connu beaucoup de femmes infidèles, mais aucune aussi bien que Emma Bovary. Et ainsi, il m'a offert ce roman. Et bien sûr, je suis tombé d'accord. C'était l'exemple que j'emporterai dans ma tombe sur la façon de créer un personnage extrêmement complexe et intéressant. J'aime beaucoup ce roman de Flaubert et je l'ai lu à de très nombreuses reprises.
Il y a cette phrase de Madame Bovary qui compte tant pour vous, je crois, au point de l'avoir punaisée au-dessus de votre bureau, John. La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours quand on voudrait attendrir les étoiles. Comment est-ce que vous l'entendez, cette phrase, sur les limites du langage?
Well, it seems to me to best.
Eh bien, il me semble qu'elle capture au mieux
the struggle,
la lutte
that every writer feels
de chaque écrivain
to make the language as good
pour rendre la langue
as what we hope were
aussi
our
clair ou
ideas,
aussi bon qui rendrait ce que nous croyons être nos merveilleuses idées.
They never look as beautiful as we imagined they could.
Ben, les mots ne semblent pas aussi beaux qu'on les a imaginés ou qu'on voudrait qu'ils soient. C'est pour ça que chaque écrivain passe la plus grande partie de son temps à réécrire, à revoir. C'est ce que j'ai tout d'abord appris quand j'ai regardé pour la première fois les manuscrits de Dickens à la bibliothèque publique de New York. La façon dont il n'a jamais cessé de réécrire, même après avoir terminé un livre, il faisait des lectures publiques de son livre, mais il réécrivait des parties de son livre en rouge et il les lisait à haute voix à son public. Et chaque texte était réécrit et réécrit. Il ne pouvait pas s'empêcher de changer les choses. Moi, je me suis mis à le faire aussi. Même lorsqu'il y a déjà des premiers jets imprimés des épreuves du livre, eh bien, j'ai des remords d'écrivain.
On va reparler, évidemment, d'écriture, de romans, de livres en tout genre, puisqu'il en est plus que question dans Le Monde selon Garp, qui fête, on le disait, ses 40 ans. Juste après, si vous le voulez bien, Dinah Washington. I Could Write a Book, 1955. Vous êtes sur France Inter avec John Irving. Vous écoutez Boomang, un jeudi.
If they ask me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met so the world would never forget. And the simple secret of the plot, it's just to tell you that I love you a lot. Then the world discovers, as my book ends, how to make two lovers a friends.
Il y a quelque chose de familier dans son visage, comme celui d'un acteur de cinéma qui aurait traversé des décennies et des décennies sans jamais quitter les écrans, chevelure dense et blanche, visage un petit peu buriné, regard ténébreux. On l'imagine aisément en armure, en train de secourir une demoiselle en détresse, en tenue de cow-boy avec une étoile de shérif sur la poitrine, ou qui sait, en Jedi, ce matin, avec son t-shirt à rayures et ses petites lunettes qui sont posées au milieu. John Irving, invité de Boomerang pour un anniversaire et pas des moindres, Londres, les 40 ans du monde selon Garp. Un livre, John, dont vous avez souvent dit aux grandes dames de certains de vos lecteurs qu'il n'était pas autobiographique. Je me souviens d'une préface pour les 20 ans de ce livre où vous écriviez « Je ne suis qu'un père imaginatif. En imagination, je perds mes enfants tous les jours. » Quel refuge est-ce que c'est pour vous, l'imagination, John Irving?
Oh, I wish the imagination were a refuge.
Ah, j'aimerais bien que l'imagination fût un refuge.
I think for many fiction writers.
Pour beaucoup d'écrivains de fiction.
The imagination becomes a
l'imagination
home for your
devient un foyer des cauchemars, un foyer pour vos pires obsessions.
With every novel I've written.
À chaque roman que j'ai écrit,
they wait, maybe as many as,
ils attendent
10, 12 years,
jusqu'à 10, 12 ans.
In a fairly completed form,
en forme quasi complète. Je connais l'histoire 10, 15 ans avant de commencer à écrire.
Dans
ça m'a même attendu une fois 20 ans. Ils existent dans une pile de notes. Les personnages existent. Ils sont là pour plus longtemps. Ils sont là depuis deux ou trois fois le temps que ça me prend pour les écrire. J'attends toujours de connaître la fin en grand détail avant de débuter. Tout le monde le sait.
I also need to wait.
Mais il faut que j'attende aussi
to know what is the part of the story
de savoir
that I am
quelle est
dreading,
la partie du
that
récit
I am fearful of writing, that
que
I
je
know
crains
I don't want to write.
D'écrire, que je and sais ne pas vouloir écrire. Et c'est toujours une histoire dont j'espère qu'elle ne m'arrivera pas, ou à qui que ce soit que j'aime. C'est la partie cauchemar du récit. Parce que s'il n'y a pas cet élément dans un roman,
eh bien,
cet élément, c'est ce quelque chose que je haïrais voir m'arriver ou à quelqu'un que j'aime, je pense qu'il n'y aurait aucun intérêt pour l'écrire. Et en fait, c'est l'inverse, l'imagination, l'inverse d'un refuge. C'est une invitation claire, ouverte, à prendre en main les choses qui vous tiennent éveillé la nuit, auxquelles vous pensez sans le vouloir quand vous allez vous coucher, que cette chose-là devienne le cœur de votre récit. Parce que, dans la plupart des cas, c'est effectivement le cœur du récit. C'est quelque chose que je crains.
Il était loin d'être doué en tout. Rien ne lui venait naturellement. Cette constatation ne fut pas une surprise pour Garp, qui partageait avec sa mère la certitude que rien ne venait jamais naturellement. Mais le jour où un critique, après la sortie du deuxième roman de Garp, s'avisa de qualifier l'auteur d'écrivain né, Garp céda à un mouvement de malice. Dans l'esprit de Garp, il n'était pas davantage né pour être écrivain qu'infirmier ou mitrailleur de tourelles de queue. Est-ce que vous étiez né, vous, John Irving, pour être écrivain?
Well, I think I knew before I knew I wanted to be a writer.
J'ai su avant de savoir que je voulais être écrivain.
Before I put anything down on paper.
Avant de mettre quoi que ce soit par écrit.
I knew that I had a.
Je savais que.
A preternatural need to be alone.
J'avais un besoin naturel d'être seul.
I knew that I didn't enjoy.
Je savais que je n'appréciais pas
spending time with my friends
passer du temps avec mes amis après l'école
as much as my friends
autant que mes amis appréciaient cela.
In fact, at a fairly young age, I knew I saw
jeune,
enough of my friends in school.
Je pensais que j'en voyais assez de mes amis à l'école pour ne pas avoir envie de traîner avec eux et de faire des choses sans intérêt après l'école, même si j'avais rien à faire. Je me suis rendu compte en tant qu'enfant que Il valait mieux n'avoir rien à faire seul que d'avoir rien à faire avec un groupe de camarades. Je pense que ma mère et ma grand-mère, qui pendant les très jeunes années de ma vie, je les ai vues plus pendant les très jeunes années de ma vie, elles étaient inquiètes à mon égard parce qu'elles pensaient que j'étais antisocial. Mais je ne me suis jamais senti antisocial. Je pensais qu'il y avait une limite au temps que je pouvais supporter d'être avec d'autres personnes. Je préférais être dans le jardin de ma grand-mère, à me parler à moi-même. La notion du soi
en tant que
quelqu'un qui tente à être solitaire, eh ben c'est une indication. La vie de l'introverti, c'est votre propre vie. J'ai grandi autour du théâtre, j'ai pensé que je voulais d'abord être acteur sur scène, parce que j'en connaissais plus au sujet du théâtre qu'au sujet du cinéma. Mais quand j'ai lu Dickens, Hardy, Hawthorne, Melville, les auteurs du 19e siècle, c'est eux qui ont fait que j'ai eu envie d'écrire des romans de la sorte. Et quand j'étais tous les personnages du livre, plutôt que d'en être un seul.
Et
la vie telle que incarner un autre personnage que moi-même, ou en plus de moi-même, c'est devenu une obsession pour moi, avec laquelle je savais que je pourrais vivre.
À moi seul, bien des personnages, pour reprendre le titre d'un de vos livres. Merci tellement, John Irving, d'être venu faire un tour dans cette émission. Et merci à votre interprète ce matin, le très garpiste Michel Zlotowski. Le Festival America, c'est jusqu'à dimanche à Vincennes. C'est un partenariat France Inter, naturellement, comme j'invite tous les auditeurs à découvrir, à se replonger dans votre œuvre si passionnante, du monde selon Garp à l'avenue des mystères, en passant par l'œuvre de Dieu, la part du diable.